d'Éric Duhaime.
FM 93.
L'association des gens sarcastiques de Québec aime beaucoup le retour d'Éric Duhaime.
Encore plus avec Marc Boilard.
Une analyse précise, éclairée et utile. Voici les couettes du cabinet national.
PG, continuez, continuez.
La gated community, là?
Ou le golf, où il y a le jaune Honda classique.
On s'en donne, là?
Oui.
OK, excuse-moi. C'est bien con. On parle de Floride.
Ben oui, oui. C'est un sujet. Ici, il y a plein de sujets.
Okay.
Luc Ouellet, mesdames, messieurs.
Bonjour, ça va très bien.
Est-ce que c'est la première fois que tu rencontres François Morancy?
Oui. Oui, mais il me dit qu'il connaît mon père. Il a connu mon père.
Son père quand il faisait de la politique et qu'il était administrateur au Port de Québec.
OK.
Beaucoup de respect, comme je disais, pour son père, parce que ces gens-là, à l'époque, des vrais politiciens, des conseillers municipaux à cette époque-là, c'était des gens qui faisaient leur vie pour s'occuper de leurs concitoyens. Puis le municipal, c'est beaucoup un gouvernement de proximité. Là.
C'est du quotidien.
Des,
hein?
Des gens appellent
hey
à le trottoir, puis ils n'ont pas ramassé les vidanges.
Hey, moi, j'ai une anecdote de mon père. J'étais adolescent. L'hiver, le téléphone sonne, mon père n'est pas là, je réponds. C'est une madame qui a dit, vous direz à votre père que quand la souffleuse passe l'après-midi, ça me réveille pendant ma sieste.
Wow!
Fait que je prends ça en note, je le sens à mon père, il arrive de la quincaillerie, je dis, ouais, il y a une madame, je pensais qu'elle allait comme tirer ça au bout de ses bras.
Ouais,
non,
ouais.
Il s'assoit, prend le téléphone. Ouais, vous savez, puis là, ça a pris une demi-heure, puis finalement, il a réussi à y faire comprendre que le bien commun passait avant sa sieste. Là.
Mais est-ce qu'il était payé?
Oui, mais pas assez pour en faire un gagne-pain.
Pour ce qu'il faisait, le nombre d'heures qu'il faisait, il n'était pas payé. Il avait une rémunération qui était minimale. Mais ces gens-là travaillaient 16 jours par semaine
sans
parce
arrêt.
Que ça n'arrêtait pas.
Ouais.
Alors, c'était des politiciens très dédiés. Puis, c'est le fun de voir comment la différence entre avant et aujourd'hui les
Pourquoi?
Politiciens.
Pourquoi?
Parce qu'avant, c'était une vocation puis un travail. Il n'y avait pas la visibilité qu'un politicien a au niveau municipal. C'était des gens qui travaillaient dans l'ombre.
C'était pas tant
ils
des vedettes.
Faisaient, c'était pas des vedettes. C'était des gens connus dans leur quartier, mais c'était des gens qui faisaient de la politique pour les bonnes raisons, entre guillemets. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il n'y avait pas de vedettariat ou de notoriété dans les journaux, à la télévision à cette époque-là. C'est des gens que si tu n'avais pas à interagir avec eux, tu ne les connaissais pas. Mais ils travaillaient 16 jours par semaine à s'occuper de leur district, de leur quartier. Alors, c'était une belle époque parce que c'est quand tu les rencontrais, ces gens-là, il y avait des histoires à te raconter. Il y avait une vie, la vie de quartier, quand on dit, il était impliqué. Puis c'était des gens qui étaient puissants comme conseillers municipaux. Quand tu faisais des choses, il fallait que tu ailles l'appui du conseil municipal puis des gens dans leur district.
Mais pourquoi tu as été témoin de ça particulièrement?
Ben, parce que j'aidais quelqu'un qui était conseiller municipal, qui était ami avec M.
Morancy.
J'avais 16 ans,
c'est
17
ça.
Ans. Avant
c'est une maladie de longue date. Là.
Non, moi, c'était beaucoup plus l'organisation. Ces gens-là étaient très impliqués dans les activités communautaires et sportives de leur district. Alors, moi, je donnais un coup de main à M. Drolette, qui est décédé aujourd'hui, qui avait le centre Saint-François d'Assise.
Oui, où j'ai travaillé.
Qui s'occupait de ça.
J'étais concierge de pendant un été de temps.
Vraiment?
Oui.
Alors, moi, j'ai été planteur de
quilles
à salle Saint-François-d'Assise pendant deux ans, à peu près.
Deux
alors,
ans.
Ouais, c'était 10 cents de la partie qu'on me donnait à l'époque. Ça bien, t'as bien.
T'étais payé en commission?
Oui, tu payais de la partie quand tu. Alors, ça a été très agréable.
Hey, c'est longue partie, là.
Tout, ben oui, mais c'était ça, 10 cents dans le temps, là. Quand on avait fini, on prenait un chip, un coke, puis on avait passé notre paye. Mais c'était le fun, pareil. C'était des beaux moments.
Il n'y a même plus de planteurs aujourd'hui. C'est tout fait automatique.
Non, c'est ça, exact. Ça fait que 2020, Luc, on parle-tu un peu qu'est-ce que tu entrevois? On pourrait commencer au national, au provincial, puis au municipal.
Au niveau canadien, ça va être intéressant parce qu'on a un gouvernement minoritaire. Un gouvernement minoritaire, la durée de vie d'habitude, c'est 21 mois. Si on prend tous les gouvernements minoritaires et on fait une moyenne, ça dure 21 mois. Par contre, là, on se retrouve où on a un leadership chez les conservateurs. Donc, ils sont un peu désorganisés. Ça les intéresse pas de battre le gouvernement, de le renverser. Un, ils n'ont pas de chef. Mmh. On vient de nous annoncer. Puis là, je veux faire une nuance. On dit que le congrès va avoir lieu en novembre, mais ils disent pas qu'ils vont choisir leur chef en novembre. Ils pourraient choisir leur chef en juin.
Okay.
Faisons une différence entre leur congrès qui vont tenir à Québec, en passant. Une très, très grosse nouvelle. Okay. Le congrès devait avoir lieu à Toronto. Ça s'en vient à Québec.
Est-ce qu'il y a une raison avec les élections puis le résultat pour que ça ait changé de place? Ou c'est un hasard?
C'est très surprenant parce que le parti, l'establishment du Parti conservateur est à Toronto, ouais, beaucoup, puis à Ottawa. Alors, j'ai l'impression que c'est le poids politique d'un gars comme Alain Reyes, qui est un excellent organisateur, qui avait mis une bonne organisation sur pied au Québec, qui a dit, moi, on va recevoir le congrès, on va s'en occuper, puis ça donne confiance, parce que c'est énormément de travail à organiser. Alors, il va y avoir une course au leadership, parce qu'ils vont choisir leur chef en juin, et ils vont faire leur congrès par la suite, ce qui habituellement est intéressant, parce qu'il faut comprendre que quand tu es dans l'opposition, ou quand tu fais un leadership, ce qui est important, c'est d'occuper le terrain. Donc, on a deux fois la chance d'être visible, d'avoir du coverage, absolument, qu'on appelle en anglais. Donc, la course au leadership qui va être suivie et le congrès. Alors, deux possibilités d'augmenter ta visibilité puis ta notoriété. Si j'étais eux, je leur conseillerais de faire ça en deux étapes. Okay. Ça, ils m'écouteront peut-être pas. Puis, c'est tant mieux pour eux autres. Mais perds pas une opportunité d'être deux fois à la télévision nationale. Faut pas oublier qu'il va avoir un nouveau leader. S'il y a un nouveau leader, il y a une occasion de se mettre en valeur lors du congrès. Donc, c'est gagnant-gagnant. Il devrait faire ça. Je pense que normalement, s'ils sont bien conseillés, ils vont s'en aller vers ça. Et à partir de là, tout dépendant du pointage que va faire le nouveau chef. On va voir l'aiguille bouger. Après un leadership, l'aiguille, elle bouge toujours. Donc, le parti qui sort d'un leadership, habituellement, récupère 7-8 points, 8% à cause de la visibilité.
Automatiquement.
Peu
importe le parti.
Dans toute l'histoire, peu importe qui, okay, ni le parti, ni le chef, c'est toujours comme ça. Alors, on sent une augmentation des intentions de vote. C'est normal. Vous les connaissez pas. Vous les regardez à la télévision.
Tout à coup, ils sont là.
Ils vont chercher du monde, ils vont chercher des appuis. Alors, c'est ce qui va se produire au niveau du leadership. Par la suite, s'ils sont bien positionnés, on peut avoir une élection, comme on disait, ça va faire déjà en octobre prochain, un an qu'ils vont être là. Si on parle de 21 mois, il y aurait une année encore à se préparer. Faut pas oublier non plus que, et chez les libéraux, et chez les NPD, et chez le Bloc québécois, les coffres sont vides. Puis on fait pas d'élection sans argent, c'est clair. Ça prend des importantes sommes d'argent pour être présent au niveau de la télévision, de la publicité, des organisations.
Les libéraux, c'est pas des coffres pleins à l'année, me semble.
C'est sûr que quand tu es au pouvoir, c'est plus facile d'organiser, sauf que immédiatement après une élection, tu vides tout ce qu'il y a.
Okay.
Tous les partis confondus, pas juste les libéraux, les conservateurs, le NPD, leur objectif est de maximiser le revenu qu'ils ont dans les coffres. Donc, ils dépensent tout l'argent qu'ils ont, okay, puis ils refont une campagne de financement après l'élection. C'est facile quand tu es au gouvernement, c'est plus facile, entre guillemets, mais là, on est rendu avec du financement qu'on appelle du financement populaire. Tu donnes 100 $, tu as des limites de donations, autant fédérales que provinciales au Québec. Alors, c'est plus difficile de faire des campagnes de financement. À l'époque, ben, tu pouvais ramasser jusqu'à 3 000 $ par personne. Puis là, il y a des gens qui trouvaient que tu pouvais influencer un politicien si tu lui donnais 3 000 $. Donc, les règles ont été changées complètement. Aujourd'hui, au Québec, tu peux donner 100 $. La course au leadership, par exemple, ce que j'ai compris chez les conservateurs, vont limiter les c'est des donations personnelles, puis tu pourras pas donner plus que 1 600 $ pour appuyer un chef. Ça va être intéressant à suivre. Il y a beaucoup de candidatures qui s'activent. Il y a beaucoup plus au cours des derniers jours. Vous avez vu la couverture qu'il y a eu. C'est sûr que l'annonce d'une possibilité de candidature comme quelqu'un de Jean Charest, ça rend la chose attractive. Il a déjà été chef du Parti conservateur, déjà été chef de l'opposition à Ottawa avec ces deux personnes, comme on disait. On l'appelait, il y avait un petit caucus de deux. Ça, c'était pas long à se réunir. Il y avait lui puis Elsie Wayne. Alors, il connaît bien la dynamique fédérale. Il a été premier ministre au Québec. On pense à Gérard Deltel dans la région qui semble y aller, Peter McKay, Rona Ambrose. Il va avoir une stratégie à adopter. Le premier qui se lance habituellement peut faire fuir d'autres candidatures. Quand tu es assez fort, ben là, puis tu te présentes, ben les autres qui sont en train de tâter le terrain, puis analyser leurs possibilités, ils peuvent dire, ben moi, j'y vois pas, parce qu'exemple, Peter McKay a annoncé, puis il va avoir du support au niveau du caucus. Qu'est-ce qui se fait présentement? C'est les chaînes téléphoniques. Tout le monde parle à tout le monde, puis essaye d'avoir l'appui. Le gars le plus sollicité au Québec s'appelle Alain Reyes. C'était l'organisateur en chef au Québec pour la dernière élection. Donc, lui, il a interagi avec tous les députés au niveau du Québec. C'est un homme clé. Si tu veux te présenter, tu as besoin du Québec, les Maritimes, puis être plus fort en Ontario. Dans l'Ouest, peu importe qui tu vas présenter, ils vont faire des gains. Alors, Reyes, c'est un homme très sollicité. Gérard Deltel aussi, un bon politicien. Donc, les téléphones se font. Puis là, tout le monde mesure leur appui. Puis il parle à tout le monde. Il parle à Andrew Scheer, il parle à Stephen Harper. Qu'est-ce que tu penses de ma candidature? As-tu des choses à me recommander? Il y a une espèce de tradition qui veut que tu parles toujours aux anciens chefs pour recevoir de l'information. Les anciens chefs sont très respectés habituellement. Et je peux vous assurer que tous les gens qui songent à se présenter au leadership conservateur ont parlé ou vont parler à M. Harper, M. Scheer, même M. Mulroney, qui a encore une grosse résonance au niveau du Parti conservateur. Okay.
M. Scheer, malgré son départ non voulu, il demeure quelqu'un
d'influent. Oui, il demeure quelqu'un. Il a quand même fait élire 120 députés. Il faut pas oublier qu'il a amené le parti très près de la victoire. Donc, il a été un élément. Il est pas parti de là avec 50 députés. Il a mieux fait que la dernière élection. Donc, il y a eu une croissance au niveau du nombre de députés, du pourcentage de vote aussi. Alors, c'est intéressant et c'est une marque de respect. Quand tu te présentes en politique puis tu veux être le prochain chef, traite ton chef qui s'en va comme il faut. Vous avez d'ailleurs vu, tout le monde a attendu. Il n'y a pas personne qui a dit « je vais me présenter au leadership » avant que M. Scheer ait quitté.
Non, ça c'est
et
clair.
Et ça, c'est comme une règle non écrite, c'est que tu ne remplaces jamais le roi si tu le pousses dehors. Ça, c'est en politique, là, c'est tu remplaces pas le chef si tu l'as poussé dehors.
Je te suis.
C'est toujours comme ça que ça a fonctionné dans l'histoire politique, autant au Québec qu'au Canada.
Au national, qu'est-ce que tu entrevois? Ce serait quoi le fait saillant, d'après toi, qui s'en vient en 2020? Au provincial, je dis, excuse-moi.
Au provincial, c'est l'année de vérité. C'est la lune de miel qui s'est prolongé encore jusqu'on regarde les résultats des derniers sondages. Monsieur Legault performe excessivement bien, puis il fait face à deux partis qui n'ont pas de chef à l'heure actuelle. Alors, c'est difficile pour quelqu'un, quand t'as pas de chef, de performer.
Ouais.
OK? Alors, lui, il occupe la patinoire, il a bien fait, ses ministres ont bien fait, on est d'accord sur certaines positions ou pas. Il a eu le bon ton. M. Legault est meilleur premier ministre qu'il était chef de l'opposition. Les gens le découvrent dans le sens où, dans l'opposition, là, il avait de l'air toujours enragé. Tout. Là, il a de l'air d'un gars qui aime la job. Il est heureux d'être premier ministre, puis ça paraît. Il a fait des belles sorties avant les fêtes avec les enfants encore. C'était pas fauné, c'était vraiment bien. Il est heureux d'être le premier ministre du Québec, puis ça se voit, ça se sent. Et c'est un gars qui avait un problème avec son langage corporel, avec sa bouche, avec ses mimiques. Tout ça est disparu. Il paraît bien.
Parce qu'il a été coaché?
Il a été coaché, mais en plus de ça, quand t'es bien dans ton travail...
Oui, dans bonne chaise. Là.
T'es dans bonne chaise, c'est plus facile. Tu te pinces, hein, tu te dis, j'ai une belle job, je suis heureux, je suis content. T'en vas travailler le matin... Puis t'es premier ministre du Québec, c'est stimulant parce que tu participes au développement, à l'histoire, à la croissance économique du Québec avec des projets. Tu peux même laisser un héritage important. Alors, l'habit du premier ministre lui va très bien. L'habit du chef de l'opposition lui allait moins bien. Il n'y a pas personne en face de lui. Leadership chez les libéraux. À l'heure actuelle, il y a Mme Andelade et M. Cusson seulement. Mme Andelade a fait le tour de la province depuis la dernière année. Elle aurait une longueur d'avance, ce qu'on me dit, dans les organisations. M. Cusson n'a pas fait une grosse première impression. Lui a fait une erreur aussi, il a annoncé qu'il se lançait en campagne dans le congrès au leadership des libéraux. Il y a 11 nouvelles, puis tu viens en faire une 12e au lieu d'attendre le lendemain ou deux jours après, puis d'occuper l'espace seul. Donc, il a été noyé dans le congrès, puis il a attaqué Mme Andelade tout de suite avec sur des choses qui étaient anodines, là, faut se le dire. C'était pas une première sortie très bien réussie. Alors, il va avoir un chef chez les libéraux. Il va avoir un chef au Parti québécois aussi. Donc, la donne politique va changer. Les deux chefs qui vont arriver vont avoir eu de la visibilité à cause des congrès. On va mieux les connaître, mieux les voir. S'ils performent bien, ils pourraient attaquer un peu la performance de M. Legault, qui est à l'heure actuelle seul sur la patinoire. Ils performent bien. Il n'y a pas de Québécois qui est fauché après leur premier ministre. On trouve qu'il fait bien ça. Puis, ce qu'on appelle la lune de miel, c'est prolongé. Moi, je pensais que ça allait... Les problèmes qu'il a eu à un moment donné sur la gestion à la fin de l'année, puis on regarde les sondages, ça n'a pas eu d'impact. Tous les gens sont satisfaits. Ils regardent ça, puis ils disent, il fait bien ça. Puis, ils regardent à côté. En politique, c'est toujours la comparaison qui est primordiale. Si on compare M. Legault avec deux pas de chef, il est difficile de ne pas être le premier.
C'est ça.
Quand il va avoir des chefs, s'il performe bien, ben il va peut-être perdre un peu de popularité ou il va être attaqué, puis il va se faire définir par les chefs des chefs d'opposition, les chefs des autres partis. Parce qu'en politique, il faut que tu définisses ton adversaire. M. Legault est difficile à définir à l'heure actuelle. Il est défini comme quelqu'un qui fait sa job, mais il n'y a pas d'opposition. Souvenez-vous de Mario Dumont, la girouette, et Monsieur Charest, elle avait défini en disant c'est une girouette. Il a répété ça pendant deux mois, Monsieur Charest. Ben, le monde dans la tête disait c'est une girouette, change d'idée.
En
politique, c'est souvent ça. OK? Et on va avoir justement au Québec des politiciens qui vont essayer de définir, dire Monsieur Legault, un ancien politicien, ils vont l'attaquer sur l'économie. Il fait bien, mais c'est pas beaucoup d'innovation au niveau économique. Là. C'est l'économie un peu du passé, puis il bénéficie d'une bonne performance économique. Mais on peut pas dire qu'il a mis sur la table des projets existants puis une vision pour exciter les Québécois. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait, puis c'est suffisant pour l'instant. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais l'année, c'est une année de vérité. Ça va être une année importante à cause de l'arrivée de deux nouveaux chefs, autant au Parti québécois qu'au Parti libéral du Québec.
Au municipal, pour terminer, qu'est-ce que tu entrevois? C'est quoi
municipal,
le fait saillant?
La grande question que tout le monde se pose, est-ce que Régis, la maire, va rester là? Et là, il y a des gens qui se préparent, il y a des gens qui sont en train de faire des téléphones, qui veulent se présenter, des gens qui ont des pointures intéressantes, mais... Est-ce que ces gens-là vont faire comme les gens ont fait chez les conservateurs à l'époque? Vous savez, une course au leadership, t'aimes pas ça être celui qui va être là pour une élection pour te faire battre. Tu veux y aller pour gagner, là, pis c'est normal aussi. Mais chez les conservateurs, là, il y a eu 18 personnes à un moment donné, puis il n'y avait pas personne de calibre supérieur. Parce que tous les gens disaient, M. Trudeau, il marche sur l'eau. Il n'y a personne qui va battre M. Trudeau. Puis dans les 8 derniers mois avant l'élection, M. Trudeau a piqué du nez, gestion SNC-Lavalin, des difficultés, les deux dames qui quittent, son intervention et la difficulté à nous démontrer qu'il était capable d'être premier ministre. Là, on voit ce qu'il a annoncé comme déficit il y a deux semaines. C'est pour les gens au niveau économique, c'est des très mauvaises nouvelles, un déficit à cette hauteur-là. Alors, est-ce que à la Ville de Québec, le spectre du fait que M. la bombe peut se représenter va freiner des candidatures. Si vous rencontrez tout le monde...
Tu trouves-tu que la bombe serait imbattable au prochain mandat?
Je dis pas qu'il est imbattable, mais je dis qu'il occupe déjà un espace.
Ouais.
Tout le monde dit que c'est un mandat de trop, mais c'est un mandat de trop contre qui? C'est qui va être son adversaire? Si tu laisses les joueurs en présence, les mêmes joueurs, je pense qu'il a une chance de gagner. Si tu changes les joueurs, ça va changer la donne. Mais c'est toujours comme ça en politique. Là. C'est M. Scheer, là, tu l'aurais laissé 15 élections, il aurait fait 15 performances, il n'aurait jamais gagné.
C'est sûr.
C'est impossible. Tu peux pas aujourd'hui, avec ses positions sur l'avortement puis mariage gay, c'est terminé. Tu peux pas avoir ça dans le portrait. Il aurait fait des. Il y a du monde qui l'aime, mais il est saturé au niveau du pourcentage de vote qu'il va chercher. Donc.
Mais quand tu es connu dans n'importe quel domaine, par définition, tu es souvent t'es saturé. C'est juste quelqu'un de nouveau qui arrive. Qui peut permettre tout à coup un. Tu sais, prends quelqu'un qui serait en politique, puis même pas en politique, là, je parle quelqu'un dans les médias, là, un lecteur de nouvelles, n'importe qui, Pierre Jobin.
Marc Boilard.
Qui arrive, qui dit moi, je me présente contre la bombe. Oui. Mais pour moi, c'est le seul type de profil qui a une chance contre quelqu'un qui est très fort dans les médias. C'est pas Jean-François Gosselin. Papa, je l'aime pas.
Non,
mais il m'apparaît comme quelqu'un, je sais ce qu'il y a dans le tank à gaz, tu comprends?
Alors, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on dit la même chose. Tu compares, c'est qui ses adversaires? Si ses adversaires demeurent les mêmes, il y a une chance de regagner. Il va regagner d'après ce que tu me dis.
Bien, c'est parce que quand tu fais la même recette, tu obtiens le même gâteau.
Exactement.
Mais ce qui ferait que M. Labeaume ne se représenterait pas, ce serait quoi? Sa santé? Le fait qu'il est plus challengé qu'il l'était? Son projet de tramway ou la résistance à ses idées?
Je pense qu'il faut analyser ça. M. Le maire a fait des mandats importants. Il a son style le plus aux gens, mais là, sa popularité est en décroissance. Dans la communauté d'affaires, il n'est pas aussi populaire qu'il l'était. Il a pris des positions qui ont fait en sorte que des gens ont dit « Moi, j'aime pas sa position. »
Non, mais sa communication
le tramway est un bel exemple. Et tu ne peux pas toujours avoir la gueule de bois quand tu t'adresses au monde. Tu ne peux pas toujours être arrogant. Tu peux pas toujours avoir des réponses puis dire c'est fini, bonjour, la semaine prochaine, je veux pas répondre.
Non, ça, il a été spécial.
Ça fait une période, ça dure une période, ta popularité peut te permettre de le faire, mais sur une longue période, ça devient impossible d'avoir ce type de gestion-là. Et regardez, au niveau des médias, il y a eu complètement un changement. Avant, tout le monde louangeait. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui défende son type de, non seulement de gestion, mais d'approche
mais
au niveau des communications.
Il peut changer. Il peut revenir à ce qu'il était. Il peut changer le...
Le temps d'une élection, des fois, c'est sûr que tu peux changer, sauf que la goutte d'eau qui a imposé au monde a fait son effet. Là. Le monde a une petite tache dans le front. Là,
on va parler, on va rester un peu sur le cas de la bombe, là, en général. Puis là, je vais parler au gars de com.
Oui.
Règle générale, là, les politiciens, on leur reproche souvent la cassette, puis là, on leur reproche de dire un peu la même affaire, puis d'être toujours prudent, etc. Dans combien de circonstances t'as vu, parce que moi après, je vais dire c'est quoi mon hypothèse, dans combien de circonstances t'as vu des politiciens faire des erreurs, pas de contenu, là, pas dire, mettons, je vote à droite, t'as couché rendu à gauche, des erreurs comme on reproche à la bombe, par exemple. Cette année, il a été un petit peu vindicatif avec les journalistes. Ou Catherine Dorion, ah ben là, tu es allé trop loin avec sa tuque, sa photo d'Halloween. Dans combien d'exemples que t'as vu, toi, d'expérience, de gens à qui, sur le coup, on a reproché des excès, puis qui, finalement, ça leur a juste donné de la personnalité?
C'est sûr que... Mais Marc, t'as un bon point, mais il faut que tu reviennes sur une période. Ce retour-là, quand t'as toujours le même style, à un moment donné, les gens décrochent. Tu peux faire une erreur, mais quand ça devient ta marque de commerce d'être tough avec les journalistes puis de les traiter de façon hautaine, sur une longue période, tu peux pas gagner. Okay. Alors, si quelqu'un fait...
T'as le droit de dépasser quand tu décides une fois.
T'as le droit de faire une coche mal taillée. T'as le droit, à un moment donné, parce que les Québécois, c'est tellement... difficile d'évaluer leur réaction. Si tu arrives dans un débat, puis tu te laisses attaquer, puis tu es poli, le monde dit c'est une pâte molle. Si tu es agressif pour essayer de prendre l'avantage du terrain,
on a vu les
tu
deux
dis.
Dans les débats cette année.
On aime ça quand ils déchirent leur chemise, mais puis ils leur mettent tout de suite, pas trop longtemps.
Ouais.
Fait que quand tu conseilles un premier ministre ou un ministre, tu te dis faut que tu doses ça comme faut. Faut que tu n'aies pas de l'air de quelqu'un qui se fait manger à laine sur le dos, mais en même temps, faut pas que tu aies de l'air d'un baveux et d'un arrogant. Faut que tu doses bien ça. Donc, puis les Québécois, d'ailleurs, la force de M. Legault, là, je vous le dis, là, réside dans une chose, sa capacité à réparer une erreur qu'il a faite le matin et l'après-midi. Quand il voit que ça passe pas, M. Legault dit, les chutes Montmorency, là, on avait dit qu'on chargerait les chutes. Oui. Tout le monde a dit, l'après-midi est arrivé, c'est fini, on ne chargera pas. Chute Montmorency, c'est au monde, on ne charge pas. Il est arrivé beaucoup de circonstances, 3-4 exemples. Le matin, ils font une erreur, ils regardent ça, ils testent tout. On s'est trompé, on change d'idée. Puis les Québécois, on n'est tous pas parfaits. C'est qu'on aime ça, à un moment donné, quelqu'un qui dit « je me suis trompé ».
Ben, il me semble.
Puis ça donne l'impression aussi à la population que les politiciens les écoutent. Mm. Ce que le monde a besoin, la force des grands politiciens, là, Brian Mulroney, là, il y a 1000 personnes dans une salle. Quand il parle, là, il parle pas aux autres personnes qu'à toi. T'as l'impression, peu importe t'es qui, t'es le gars qui s'occupe du vestiaire, t'es le président d'une compagnie, Mulroney a toujours même l'approche, un charisme, puis l'importance de l'individu. C'est pour ça que ces gens-là sont forts quand on dit le charisme de ces gens-là. Là. C'est puissant pis parce que ils donnent l'impression que tu es important pour eux puis qu'ils t'écoutent.
Bon, ben parlons d'écoute. Toi, là, t'en as conseillé combien des politiciens là, de différentes. Un chiffre à peu près, là.
Ben, à différents niveaux.
Oui, oui.
50.
50, ouais. OK. Qui t'écoutait pas? Sans nommer les noms. C'est quoi le profil qui t'écoutait pas?
Donne des indices.
Je dirais.
Parce que je suis sûr que tu t'es fait engager plein de fois en faisant, hey, Luc, faut que tu m'as. Tu sais, Luc, t'es mon homme. Toi, je trouve que tu connais ça. Mais finalement, toujours une bonne raison.
En politique, là, il y a la saveur du mot. T'arrives, t'as une bonne idée, ils t'aiment tout. Puis là, ils t'écoutent. Tu pourrais le faire porter des.
Jongler,
des,
là.
Tu pourrais faire n'importe quoi, les faire déguisés en clown. Puis tout, ils ont confiance en toi, c'est fait.
OK.
À un moment donné. Ça change, ils sont pas certains. Puis, la seule, sans être prétentieux, j'ai une seule qualité. Moi, j'ai déjà dit à M. Mulroney, M. Mulroney, votre idée, là, je pense que vous êtes tombé sur la tête. J'ai déjà dit à M. Charest, j'ai déjà dit à des ministres, hey, vous êtes fous, ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours dit que tu sois engagé ou pas, quand ces gens-là, tu les conseilles, tu as une obligation de leur dire la vérité sans ça que tu les as. Ils sont entourés de monde qu'ils payent. Mm. Moi, ils m'ont jamais payé. Fait que je peux leur dire...
Pourquoi ils t'ont jamais payé?
Parce que je veux pas qu'ils me payent. Ben. Jamais. J'ai fait du bénévolat pendant 9 ans avec M. Charest. J'ai jamais eu ni un mandat, ni une scène. Parce que la capacité de dire ce que j'ai à dire... Quand j'ai travaillé au Parti conservateur, c'était mon métier, j'étais engagé, j'étais organisateur en chef. Là, ils me payaient, pour le dire. Sauf une chose, les gens qui entourent les premiers ministres puis les ministres, ils ont une difficulté parce qu'ils sont payés. Tu peux pas être le rapporteur de mauvaises nouvelles à tous les jours. Moi, il y a des premiers ministres qui m'ont demandé d'être leur chef de cabinet. J'ai refusé en leur disant, écoute, moi, là, c'était mon rêve d'être chef de cabinet d'un premier ministre. OK? Je me suis fait offrir. J'ai dit non. Parce que j'ai dit à cette personne-là, tu vas te péter la tête ses murs dans un mois en te demandant qu'est-ce que tu as fait. Parce que tu m'aimes sur une base non régulière. Ouais. Quand tu vas m'avoir dans ta face à tous les jours, Resti, tu vas m'aider.
OK.
Si t'as pas là, tu trouves ça, je te dis ce que tu penses, ça te fait du bien, tu dis. Mais à tous les jours, là, tu te le dis, tu vas te péter la tête sur les murs, tu vas te demander ce que tu as fait.
Mais tous ceux, vous dites, les 50 pour qui vous avez travaillé de façon bénévole, ouais. Vous y alliez par conviction personnelle parce que leur valeur correspondait aux vôtres? Ou?
J'ai conseillé du monde qui n'était pas dans les mêmes affinités politiques que moi. Quand un politicien. Quand un élu, que ce soit un député, un ministre ou un premier ministre, t'appelle et t'a demandé un conseil, un, c'est très flatteur, c'est une marque de respect, mais deux, tu te dois de donner le conseil le plus objectif possible, peu importe si tu es d'accord ou pas. Alors, c'est arrivé, les gens qui ont dit qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, puis ou qui étaient mal pris. Il y en a eu des politiciens mal pris à un moment donné, qu'est-ce que tu ferais? Je leur donnais. Un conseil en fonction de la plus d'objectivité possible. Puis c'était pas toujours des gens avec qui j'avais une affinité. J'ai conseillé des gens qui étaient nationalistes alors que je suis un fédéraliste convaincu.
Avez-vous déjà refusé de conseiller des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché et vous dites non, je peux pas travailler avec toi?
Il y a des gens ou... que, sur une base, le conseil, là, je peux donner un conseil à quelqu'un, mais ça ne durera pas. Une semaine, je vais te répondre, mais je n'ai pas l'intention de te conseiller sur une période Okay. C'est que je disais, il n'y aura pas de suivi. Ça fait plaisir, je te dis ça. Mais on...
C'est qui le plus drôle de tous ceux qu'on connaît avec qui tu as travaillé? Le plus drôle, là, avec
Jean Charest.
Ben oui, c'est clair.
Jean Charest, là, c'est le gars le plus drôle.
Mais pourquoi
au monde.
On ne sait pas ça? T'es juste, tu dis c'est parce que tu travailles là-dedans. Là.
Ouais. Ben, non.
Monsieur,
c'est...
madame, tout le monde, aucune idée de Jean Charest.
Je vous dis, ce gars-là, là, à faire tous les ministres et députés qui ont travaillé avec moi, j'ai eu la chance de le rencontrer toutes les semaines. Hein. Puis j'allais le voir, puis je faisais du kilométrage, m'asseoir avec. C'est un
pas payé.
Gars qui n'est pas payé, puis je suis très heureux. C'est un privilège de conseiller un premier ministre. C'est quelque chose de flatteur. On aime tous ça. Quand,
c'est vrai.
Quand le gars, il est premier ministre, puis dis-toi, Luc, t'en penses quoi, là? Hey, peux-tu te dire que t'es gros?
T'as raison.
T'es gros, puis t'es content, puis tu t'en vas chez vous, tu dis, je suis un innocent, fais 3 heures de char aller-retour.
Ouais.
Mais en même temps, tu te dis, ah, c'est un respect,
ben
c'est
ouais.
une... C'est une opportunité extraordinaire. C'est une chance que t'as. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, puis tu lis le journal le lendemain, puis il l'a fait, peux-tu vous dire que c'est valorisant?
C'est vrai.
Puis quand ça va bien, tu dis c'est pas ton idée. Quand c'est ton idée, puis quand ça va mal, tu dis je suis pas sûr que je vous avais dit.
Non, non.
Tout pareil.
Non, vous m'avez mal compris. Là.
Mais c'est quelque chose de stimulant. Quand on dit l'adrénaline, puis le de faire... La haute stratégie, tu peux pas te tromper. C'est comme avec un ministre, tu conseilles quelqu'un, là, et tu l'envoies devant un média pour dire, il faut pas que tu te trompes, tu y penses comme il faut. Puis dans le monde d'aujourd'hui, t'as pas le temps d'y penser longtemps.
Ouais.
Fait qu'il faut que tu aies des repères, puis il faut que tu aies confiance.
Là, vous travaillez pour National, qui est un bureau de relations publiques, de gestion de crise et tout ça. C'est quoi la plus grosse crise que vous avez eu à gérer? Si vous pouvez en parler, bien sûr.
J'en ai fait beaucoup. Je te dirais que dans l'alimentation, j'ai eu la chance de participer avec un joueur mondial qui avait eu des problèmes de salubrité, puis qui est un monstre de l'alimentation. Puis ça a été des décisions très, très difficiles à prendre. La gestion de crise, là, je vous donne un exemple, c'est toujours la même recette. Tu viens me voir, François, t'es mal pris, puis là, t'as pas dit ça, t'as pas fait ça. Là, celui qui analyse la crise, il analyse les faits. Si t'as une cassette que le gars dit, c'est facile. Quand il te dit que tu l'as pas dit, tu dis, il y a un gars qui te ressemble à la télévision qui a dit ça, là, fais attention. Tu commences toujours de même. Non, mais c'est important, là, c'est ça. Tu perds pas de temps, le monde dit à la cassette, là, puis là, il baisse la tête, puis là, il écoute. Plus il baisse la tête, plus les oreilles viennent grosses. À partir de là, c'est de dire, si je sors le président de la compagnie, j'envoie un signal que la crise est très grosse. Si j'envoie pas le président, je peux envoyer un signal qui est moins grosse. Mais si elle est vraiment grosse, envoyez pas, envoyez le président, puis fais-y faire la job comme il faut, puis préparez comme il faut, parce qu'il prend ça au sérieux. Fait que ça, c'est la première. Qui va être notre porte-parole? Sur le président, tu le protèges-tu en mettant... Parce que quand t'as sorti le président, ça n'a pas bien été, le bon Dieu n'est pas toujours disponible pour répondre aux questions du soir. Fait qu'il faut que tu regardes, il faut que tu analyses tout ça en fonction de c'est qui le porte-parole, puis après, tu établis les messages clés. Tu sais, c'est quoi que je veux dire. C'est pas c'est quoi je vais répondre aux questions, c'est quoi je veux dire. Mmh. La question n'est pas importante. C'est la réponse qui l'est. Tu as 1000 questions, tu as 2 réponses. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu vas envoyer comme message? Habituellement, c'est que tu dis, depuis ce temps-là, on a déjà pris les mesures, c'est du passé. Donc, tu essaies de dire que l'événement qui est arrivé est déjà passé, on a apporté correctif. Puis voici, puis tout. Puis tu as toujours la merveilleuse phrase de dire, ben chez nous, c'est une priorité, la sécurité. C'est un monde que tu organises comme ça, mais c'est toujours le même modèle, le même pattern, mais ça a des incidences importantes. Encore une fois, si un banquier vient de voir une banque, ben elle est mal prise, faut que tu la conseilles comme il faut, parce que ça peut mal tourner. Il y a toute l'approche de l'environnement. Nous autres, on n'est pas des spécialistes de l'industrie comme telle. Tu peux conseiller quelqu'un dans l'aluminium. Moi, je connais rien dans l'aluminium. L'aluminium puis le fer, là, des fois, je peut-être capable de mélanger ça, mais on est des experts dans ce qu'on appelle les communications puis la gestion des communications qui entourent. Donc, on y va toujours avec les mêmes choses, c'est porte-parole, c'est message clé. Puis là, tu décides si le gars, si tu n'as pas un bon dossier, tu utilises la phrase magique, on ferme notre gueule, puis on prend notre pelule, puis une plus grosse crise va venir tuer notre crise. Si on a un bon dossier, on est plus apte à sortir notre porte-parole pas à parler.
Tu vis ça en opportunité.
Tu vis exactement.
Mais c'est, si c'est eux.
Tu devras faire de ça parce que c'est exactement le mot. On dit ta crise, là, c'est d'opportunité puis de repositionner.
Puis gérer une crise d'une entreprise versus d'un individu. Quelqu'un de très connu, qu'il soit artiste, qu'il soit peu importe, qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose, et là, c'est l'individu qui est dans le trouble.
Tu le trouves pas un peu curieux de ces questions-là?
Non, mais c'est des bonnes c'est des bonnes questions, et c'est complètement différent. L'entreprise, je te dirais, la plus grande différence entre une entreprise et un individu, c'est l'émotion. L'individu a bourré d'émotions, alors que le président de la compagnie a de l'émotion, mais c'est pas au même niveau. Ça touche
le... Incluant lui, dis-moi, je me trompe, pour les gens qui vont écouter le message en question.
Absolument.
Si c'est Éric Salvaille, ben il y a des fans, là, puis tandis que Desjardins, bon, à part, on est en sac. Ça,
on est moins personnel, on est touché directement, mais moi, ce que je vous dis, c'est l'émotion. C'est que nous autres, la chance qu'on a puis la force qu'on a, c'est qu'on n'est pas impliqué émotivement.
Non, c'est
on
sûr.
Est capable de dire au gars, là, hey, arrête de penser que ton affaire, c'est gros.
Ouais.
Si tu penses ouvrir le téléjournal avec ta bad luck, là, ça ne marchera pas. Il y a de quoi de plus gros dans l'actualité aujourd'hui.
Ouais.
On le calme, prépare, puis là, tu décides, on parle-tu, on parle-tu pas. Tu te dis, c'est-tu 24 heures? Et tu mesures autant chez l'entreprise que l'individu l'impact de ce que tu vas faire. Est-ce que c'est un impact plus positif de se fermer?
Ouais.
Puis, une bonne crise, c'est celle qui ne dure pas longtemps.
Okay.
C'est toujours ça.
Okay.
L'objectif, là, même si la crise est grosse puis tu ne gères pas comme il faut, ça dure 24 heures, elle est meilleure qu'une crise que tu vas gérer peut-être bien, mais qui va durer une semaine.
Ouais.
Faut toujours... Puis aujourd'hui, dans l'actualité, là, c'est pas une farce qu'on dit, là. Des fois, on est tellement mal pris d'un dossier qu'on prie pour qu'il arrive quelque chose de plus gros en disant on peut-tu. Puis là, on est-tu content? On est comme des génies quand il y a eu une plus grosse nouvelle qui a tué notre crise, alors que c'est l'actualité qui le fait. Puis on n'avait pas. Faut être conscient de ça. Il n'y a pas de recette magique, mais il faut que tu sois transparent. Aujourd'hui, la transparence. Tu ne mens jamais, on dit aux clients, là on est comme ton avocat, là, tu me dis tout. Là.
Ouais.
Parce que là des fois, là, comme le témoin à court, son avocat apprend les affaires, là, c'est pas bon.
Non.
Je dis, gars, si tu veux je te serve bien, dis-moi toute la vérité. Même si c'est mal fait, j'ai besoin des faits pour trouver, comme un docteur, le médicament. Si j'ai pas les bons faits, tu me dis que t'as mal un orteil, puis t'arrives, puis t'as une jambe amputée, ça va pas bien.
Ouais.
Tu sais, il faut qu'il soit transparent pour qu'on soit capable d'apporter le diagnostic puis d'être capable de le sortir. Puis on peut pas avoir, nous autres non plus, si tu dis une déclaration puis que les journalistes aujourd'hui fouillent puis ils découvrent que ce que tu as dit, c'est d'une demi-vérité,
c'est
terminé.
C'est
parce qu'une fois que le premier chiffre que tu fais donne le ton à cette gestion-là.
Okay.
Si tu n'as pas de l'air sûr de toi, ton objectif, là, c'est de rassurer puis de dire je suis en plein contrôle avec des messages. Si tu n'es pas capable de faire ça la première fois, je t'annonce que tu ne seras pas capable la deuxième puis la troisième. Ça
je
va
suis.
Continuer. Et c'est pour ça qu'il faut réagir rapidement avec le bon médicament, comme on dit.
Ouais.
Sans ça, ça crée des gros problèmes.
Alors, François, as-tu aimé ton cours de relations publiques?
Mais ça me fascine, moi. C'est ce métier-là de gérer...
Tu fais même pas ça l'envie?
Gérer les problèmes, tu sais. Il est géo au Club Med.
Mais savez-vous, je vais vous faire un... C'est la plus belle job au monde.
T'aimes ça?
Parce que tu sais
faut
pas...
Il faut que t'aimes le trouble un peu, là, tu sais.
Non,
mais c'est
pas...
régler le trouble.
Ben oui, mais t'es dans le trouble pareil.
Ah,
oui,
mais c'est pas toi qui est dans le trouble. C'est les gens, puis tu te dis... C'est... D'avoir à réagir et à régler ce problème-là, là, c'est stimulant. Des fois, tu t'en vas au bureau et tu te dis aujourd'hui, j'ai une petite journée, m'a fait l'administration, j'ai un client, j'ai une rencontre, téléphone sonne, tu passes 4 jours sur quelque chose. Tu oublies tout le reste, puis tu gères ça. Il n'y a aucune monotonie. C'est pas monotone.
Je comprends la question à François. C'est comme. Non, faut mais... que t'aimes un peu le trouble. C'est comme Julie, moi, des fois, elle rentre puis elle a les yeux tout brillants. Il y a un autobus scolaire qui est tombé dans le ravin.
Ben
elle
non,
compte.
Franchement, t'exagères.
Je suis sûr que Julie n'a pas les yeux pétillants quant à ça.
Moi, mais... je rentre puis j'ai dit Jean Charest, il pense à se présenter au Parti conservateur, appelle Luc Ouellet puis il n'est pas intéressé.
Non.
mais c'est stimulant. Tu ne fais jamais la même chose. Puis ce qui est encore plus merveilleux, c'est que tu apprends.
C'est toi, Luc.
Dans un court laps de temps, tu apprends le core business de ces gens-là.
C'est vrai, pareil. Hein?
Tu sais, tu travailles.
Et tu sais des choses que pas grand monde savent.
Ben oui.
C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a accès à de l'information qu'on n'aurait pas accès en temps ordinaire. Tu as tout à fait raison.
Ouais.
Mais la compréhension de comment fonctionne.
Là, tu touches sur les boutons névralgiques.
Non, puis c'est ça. Puis c'est ça. Tu agis toujours quand il y a une crise avec les hauts dirigeants. Tu gères pas ça avec le gars de l'usine. Puis donc, tu as de l'information qui est de l'information que tu as accès que tu n'aurais pas en temps normal. Puis tu vois cette industrie-là d'une autre façon quand tu sors de la crise. Tu te dis, là, ils font ça pour ça. Quand tu lis les journaux, on lit pas les journaux de la même façon. Il y a des raisons pourquoi il y a une entreprise qui fait ça. Puis des fois, tu dis, toi, tu peux dire, ils sont-tu gogo? Puis moi, je vais dire, ils sont bons. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a.
Il y a
mieux passer pour un gogo que de passer pour le B.
Ça, c'est tellement Québec gogo, là.
Gogo,
c'est vrai? Quand j'étais ado, on disait ça quand quelqu'un on trouvait pas. On disait, lui, c'est un gogo. On disait ça.
Mais, il y avait Gogo Pizza.
C'était
excellent pour ça.
Oui, pour vrai, tu t'en souviens.
Oui, Western Pizza, Gogo Pizza.
Gogo Pizza. Luc, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
C'est le bénévole de l'année, dans le fond, avec Jean Charest, avec nous autres.
Ça me fait plaisir.